Radio Kati, grand témoin.
Il est président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, une ONG de défense des droits de l'homme et de développement démocratique. Jérôme Bonceau est l'invité de grand témoin. Jérôme Bonceau, merci d'être venu.
Merci Alain.
Vous avez une riche expérience en matière électorale, nous en parlerons. Nous ferons aussi le point de la contribution de la l'INELIT pendant les élections présidentielles et législatives de 2006. Et nous aborderons aussi l'organisation des prochaines élections locales. Pour commencer, Jérôme Bonceau, peut-il nous parler de son enfance?
Oui, je suis né dans un village plus loin de la capitale de ma province d'origine. Tout d'abord, j'ai grandi dans un camp des adeptes d'une religion qu'on appelle l'Église des Apôtres. Et dans ce camp-là, mon comportement était contrôlé. À tout point de vue, de sorte que si je commettais une petite bêtise, le soir j'allais être repéré par un prophète qui allait me dire que tu as fait tel. Et aux yeux de mes parents, ça allait être un crime. C'est pourquoi quand je fais l'école primaire, je suis allé à l'époque, ce qu'on appelait le cycle d'orientation, chez les missionnaires, les religieuses. Et il fallait avoir un bon comportement pour être accepté chez les missionnaires, surtout les religieuses.
Et votre village s'appelle comment?
Mon village s'appelle Rokonkoulou. Je suis dans la localité de Machala, territoire même de Djimbelingue, et du côté de Lac Moukamba, et j'appartiens à la province du Kassai Occidental.
Et les études primaires, vous en parliez déjà, c'était dans quelle école?
C'était à l'école primaire de Nakalombo, c'est là où j'ai fait mon cycle primaire, et tandis que le cycle d'orientation chez les missionnaires, j'ai fait la mission catholique de Machala.
Et quelle était l'option que vous aviez choisie en sixième des humanités?
J'avais la passion d'aller au séminaire. J'enviais, je voulais être prêtre, parce que je voyais auprès, c'était à l'époque un modèle, une référence pour la vie. Mais comme il y avait deux candidats, l'autre était candidat d'un enseignant de Mukambi. Et moi, je n'étais pas l'enfant de Mukambi. On a donné priorité à celui-là qui a fait ses études, qui a fait le séminaire de temps. Il est maintenant abbé, il a des responsabilités.
Mais pourquoi vous n'avez pas pu continuer dans une autre congrégation, un autre séminaire?
Non, c'était difficile chez nous. Pour aller ailleurs, il faut avoir la caution des missionnaires. Ce sont les missionnaires qui orientaient, c'est en là les missionnaires belges. Donc, aller ailleurs, c'était une rébellion. On allait vous placer. Autant suivre les chemins, c'est là où il m'avait orienté d'aller faire les humanités pédagogiques à Mikalaï. C'est là où j'ai été orienté.
Est-ce qu'aujourd'hui, Jérôme Bonceau regrette de ne pas avoir été prêtre?
Non, je ne peux pas regretter le passé, mais on compare si j'étais prêtre avec l'environnement que nous nous trouvons, où le prêtre est maintenant pris en charge par nous-mêmes, et que nous-mêmes n'avons pas la capacité de prendre en charge nos prêtres, et nous voyons comment nos prêtres commencent à souffrir. C'est tout un problème. Je dis, Dieu avait fait son choix, et c'était pas le bien.
Alors, quel souvenir Jérôme Bonceau garde-t-il de son enfance?
Le souvenir que je garde de mon enfance, c'est le souvenir d'avoir été à côté de ma mère. Parce que toutefois, quand je rentrais de l'internat, je me mettais sur le lit à côté de ma mère, et j'embrassais tout le temps ma mère, et j'étais toujours à côté de ma mère. C'est ce souvenir, mais parce que je me suis séparé avec elle quand je suis allé à l'internat, et quand il est décédé, et je me trouve quoi, à l'extérieur, ailleurs, et c'est là où je garde ce souvenir, pourquoi je me suis séparé de ma mère.
Un enfant, maman.
Et je l'appelais pas son nom.
Rappelez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
Oh, j'avais beaucoup d'amis. Et si je cite les autres, vous voilà, j'avais beaucoup d'amis d'enfance. Et même à l'internat, j'ai eu des amis. À tel enfin qu'on me confondait. On ne savait pas si je venais de village tel, mais on confondait que j'appartenais aux amis qui restaient à Bikalaï, à Kaboué, à Mouika, et ainsi de suite.
Radio Kati, grand témoin.
Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, une ONG de défense des droits de l'homme et de développement démocratique, est l'invité de grand témoin. Jérôme Bonceau, parlez-nous maintenant de vos études universitaires.
Oui, après avoir quitté l'école normale à Mikalaï, je me suis passé ici à Kinshasa, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut continuer avec l'enseignement ou il faut couper avec l'enseignement? Qu'il faut couper avec l'enseignement, je me suis orienté vers les études commerciales où j'ai fait la gestion financière. Et quand j'ai terminé le cycle de gestion financière, à un moment donné, je devais travailler. Et j'ai essayé de faire un peu l'enseignement.
Et c'était dans quelle université, les sciences économiques?
Nous avons fait les sciences de gestion financière, le système de commerce. C'est là où nous avons terminé nos études à son temps. Et quand nous avons terminé, il fallait, avant cela, il fallait conserver l'enseignement. Et faire aussi au niveau de l'administration publique, c'était à l'université de Kinshasa, où on était grand fonctionnaire. Quand on a quitté là-bas, il y a eu maintenant l'avènement de démocratisation des années 90. Et j'ai senti en moi une autre passion de faire le droit de l'homme, de défendre les autres, de penser en train de la voix de sa voix, et c'est aussi assister à l'avènement d'un état de droit par les élections. Et nous sommes dit, la résolution passive par des conflits, par les moyens passifs, c'était les élections. C'est là où j'ai eu le goût d'avoir plusieurs formations en monitoring électoral, en administration électorale, en monitoring des droits de l'homme, avec des organismes internationaux, où je suis allé faire autant de formations aux États-Unis, je suis allé en Grande-Bretagne et dans la Fédération de Russie. Et tout ça, ça m'a donné le goût maintenant de répercuter cet enseignement pour la promotion de la culture démocratique et des droits de l'homme. Comme il y avait un déficit, ça a coïncidé, parce que nous étions victimes des abus, des violations des droits de l'homme dans notre pays par le régime précédent, et il fallait maintenant encadrer la population. Pour que la population puisse se défendre de ses droits, il devait aussi les connaître. Pour les connaître, il faut passer un message de sensibilisation, d'information et de cette population. C'est de là où nous avons senti ce besoin et nous sommes lancés maintenant dans le droit de l'homme et la culture démocratique.
Le 11 décembre 91, vous créez la Ligne Élite. Qu'est-ce qui vous pousse à mettre sur pied une pareille organisation, sachant que le contexte, l'époque ne s'y prêtait pas?
Il fallait faire, parce que on avait, c'était une révolution, on devait se révolter contre l'injustice, contre la violation des droits de l'homme. Il n'y avait pas autre moyen, on va dire, on ne sert à rien devant les arbres, mais il y a plusieurs moyens de combattre la dictature sur le terrain, c'est de sensibiliser l'opinion, à l'opinion de sensibiliser sur ses droits. Comment les protéger, comment les défendre, et on allait faire un tour. Et nous arrivons à un petit résultat, c'est que le régime du président Mobutu était affaibli, parce que les gens commençaient à dire tout haut, à ce temps-là, que ça fait partie des violations des droits de l'homme, vous ne devez pas continuer à faire ceci, arrêtez, monsieur.
Quelles sont les spécificités de la Ligne Élite par rapport à d'autres ONG de défense des droits de l'homme et de développement, Jérôme Bonsoir?
Oui, c'est difficile de le dire, mais je vais épingler quelques aspects. Ligne Élite, nous nous sommes dit, si on a l'information, si on récolte les éléments d'information, on les traite, on les diffuse, et comment ça va atteindre la population? Et cette population qui a un pouvoir d'achat très faible, comment l'information va se passer? Ligne Élite a tablé sur, tout d'abord, le débat. De conférences, de sensibilisation dans des paroisses, mais avec un support pédagogique et un support que nous appelons le scrutin. C'était un magazine que nous publions, que nous distribuons gratuitement, parce que nous sommes dit que nous mettons à vendre, que nous voulions, les formations ne vont pas passer. Et nous utilisons plusieurs canaux de missionnaires, canaux de syndicats, de partis politiques qui photocopient les éléments qui sont là et qui répercutent au niveau du jour. Et Ligne Élite aussi a une autre particularité, vous savez, quand le dialogue, on est allé au dialogue intercongolais, avant d'y aller, il y avait l'accord de Lusaka. C'est cet accord de Lusaka que Ligne Élite avait publié dans le scrutin, que la population commençait à faire des photocopies, que la Ligne Élite a pris l'initiative de le publier sous format de poche, en français, en quatre langues nationales, avec les signatures de tous les belligérants à scanner, et ça fait une opinion, ça a poussé les uns et les autres d'aller se trouver autour d'une table pour qu'on discute, pour qu'on puisse aller au dialogue intercongolais.
Publier un journal gratuitement, la Ligne Élite a suffisamment de moyens pour ça. Vous êtes bien soutenu.
Bon, c'est la volonté tout d'abord. C'est la volonté parce qu'on est parti avec les moyens propres. On est parti avec les moyens de bord. On est parti avec les moyens des gens de bonne volonté, des nationaux. Et quand on a fait ce travail, les partenaires extérieurs se sont aussi intéressés parce que quand on publie le scrutin, c'était un journal qui mettait une littérature électorale qui faisait défaut à travers l'Afrique francophone, ça je le dis, parce que ce journal est répété dans la plupart des pays africains, et pas seulement les pays africains, mais aussi les pays européens, parce que Ligne Élite a mis ça enregistré, les stagiaires qui viennent des grandes universités américaines, européennes, et ainsi de suite, pour faire leur formation à la Ligne Élite. Donc c'est un document intéressant, mais le moyen, les partenaires, ils sont aussi intéressants à cela, c'est pourquoi nous avons eu cet appui de partenaires extérieurs.
Nous allons replonger dans l'ambiance du deuxième tour des élections présidentielles. Je vous invite Maître Jérôme Bonceau, à suivre cet extrait de l'interview que Jean-Pierre Kimbuya, président du syndicat des enseignants du Congo, avait accordé à l'époque à notre confrère Georges Kamujova, deux semaines avant le deuxième tour. On l'écoute.
Monsieur Jean-Pierre Kimbuya, le syndicat des enseignants du Congo est l'une des forces syndicales représentées à travers toute la RDC. Vous avez été plusieurs fois en grève durant la transition. Cette transition prendra fin avec l'installation du président élu. Et c'est dans moins de deux semaines qu'il faut choisir entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Quel doit être le choix des enseignants?
Et je pense qu'en tant que leader social et un des représentants du pouvoir social dans ce pays et pourquoi pas du contre-pouvoir politique, j'incarne une opinion multipolitique. Et moi, je pense que les enseignants de ce pays et les personnels de l'éducation doivent choisir en toute responsabilité et toute confiance.
Donc, le CIECO ne donne pas une consigne de vote particulière?
Nous ne pouvons pas le faire dans la mesure où j'ai dit que j'incarnais une opinion multipolitique.
C'était là Jean-Pierre Kimbuya, président du syndicat des enseignants du Congo. C'était l'époque chaude de Jérôme Bonceau des élections, du deuxième tour des élections. Quelle a été la contribution de votre organisation, la Ligne Élite, pendant la période préélectorale, électorale et post-électorale, en quelques lignes?
Oui, préélectorale, c'est la Ligne Élite qui a ramené l'expérience vécue sous d'autres cieux, notamment l'expérience sud-africaine, parce que la Ligne Élite, nous étions par le 20 000 observateurs internationaux accrédités lors des premières élections multiraciales en Afrique du Sud en 1994, quand Madiba Nelson Mandela a été élu président de la République, et nous avons vu le pouvoir organisateur. Quand on organise des élections dans un pays, il faut voir quel est le pouvoir organisateur, comment est-il composé, quelle a été à la base l'esprit et la lettre pour l'organisateur. Et l'Afrique du Sud nous a été pour nous un modèle parce que l'Afrique du Sud a organisé les premières élections multiraciales issues d'un accord politique. Et les acteurs politiques s'étaient mis d'accord pour organiser des élections et faire accroître les crédits de confiance entre eux. Parce qu'il y avait un clivage entre le noir et le blanc. Le noir qui était un poids démographique important et les métis et le blanc étaient minoritaires. Et les uns et les autres, il n'y avait pas de confiance. Et on a créé la confiance entre les acteurs politiques. Et c'était les élections qui étaient organisées sur base d'un programme d'un accord politique. Il fallait mettre un pouvoir organisateur approprié. C'est de là où est issue l'idée de la commission électorale indépendante. Indépendante dans sa formation, indépendante dans sa constitution, indépendante dans son autonomie, indépendante dans ses relations avec d'autres institutions.
Arrivons-en à la période électorale.
Électorale, c'est là où l'Inélite a fait de son cheval de bataille auprès des acteurs politiques à l'époque de feu président Mobutu, à l'époque de feu président Kabila et à l'heure actuelle, pour que les acteurs politiques et l'opinion congolaise puissent aussi s'inspirer du modèle sud-africain en mettant sur pied le pouvoir organisateur qu'on devrait appeler comité électoral indépendant et avoir aussi dans son sein des représentants des différentes composantes et que ce pouvoir devait aussi être autonome. C'est là le travail de la Ligne Élite. La Ligne Élite a fait aussi le travail de sensibilisation de formation. La Ligne Élite a fait plusieurs sessions de formation de formateurs en monitoring électoral, en mission d'observation domestique des élections. Et la Ligne Élite a mis aussi toute une littérature électorale à la disposition des acteurs politiques congolais, à la disposition de nos partenaires des différentes mission qui venait chez nous parce que c'est un pays qu'on découvrait pour la première fois, mais ils ont déjà trouvé un outil de travail qui est la Ligne Élite avait déjà prouvé à son temps.
I'm not sure if I'm going to be able to do that.
Parler de la période post-électorale, nous allons y revenir dans quelques instants. Vous avez suivi plusieurs formations, Jérôme Bonceau, en matière électorale à travers le monde. En 2004, vous publiez « Voici les 14 tricheries électorales, comment les découvrir et les contourner ». En RDC, y en a-t-il que vous avez découvert pendant la période électorale ?
Tout d'abord, avant de découvrir les tricheries sont dues à beaucoup de facteurs. En RDC, nous avons organisé d'abord les élections non classiques. Et c'était la première expérience. C'était les élections qui étaient organisées sur la thématique ou bien sur l'approche essai-erreur. Quand on organise les premières élections par essai-erreur, en commettant les erreurs, on plonge dans une des tricheries. En faisant la première erreur, on se met dans le droit chemin de la transparence des élections. Donc ici, il faut faire attention. Nous en parlerons même lors de prochaines élections. Parce qu'en matière des élections, on dit, il ne suffit pas de se contenter de résoudre ce qui est déjà publié. Il faut voir ce que vous allez faire lors de la prochaine législature. Mais ici, il y a eu aussi des tricheries passées par là, par la non-maîtrise de l'administration électorale, par la sous-information des agents qu'on avait mis dans le bureau de vote. Tout ça, ça procède au feu d'un chevaux de tricherie. C'est pourquoi nous disons, on ne pouvait pas épingler à NAU, mais est-ce que les gens qui composaient, est-ce qu'ils en étaient conscients? C'est ce que nous avons même découvert en appelant
la tricherie inconsciente.
La tricherie inconsciente, mais c'est de la tricherie. Mais il fallait voir l'impact de cette tricherie sur l'ensemble des résultats électoraux. Et c'est là où les observateurs ou les analystes électoraux visés peuvent dégager toutes les conséquences là-dessus.
Vous êtes membre du réseau des observateurs électoraux africains. Chaque pays ayant sa particularité, que peut-on retenir d'après vous des élections en Afrique de manière générale quand on sait que certaines personnes pensent que la démocratie n'est pas adapté à ce continent. Nous avons posé la question, Jérôme Bonceau, à Ali Diabaté Tadjoudine, l'ancien directeur de la division électorale de la MONUC. Suivons sa réponse, après quoi vous allez y réagir.
Oui, il ne faudrait pas confondre, à mon avis, les élections et la démocratie. Les élections sont une condition de la possibilité de la démocratie, mais les élections ne sont pas la démocratie. Parfois, il y a eu de très bonnes élections qui ont débouché sur des systèmes qui ne sont pas démocratiques. Souvenez-vous que Hitler a été élu démocratiquement. Hein? Et donc, c'est pas les élections, encore une fois, permettent de pouvoir mettre en place un certain nombre d'institutions, un certain nombre de structures qui, lorsqu'elles sont bien gérées, permettent d'aboutir à la démocratie et au développement.
Jérôme Bonceau, les élections démocratiques sont-elles adaptées à l'Afrique ?
Oui, tout à fait. C'est la vie. Les élections, c'est restituer le pouvoir au souverain. Le souverain, c'est le peuple. Le peuple africain n'est pas différent du peuple européen. C'est un être humain qui a tous ses droits et ses devoirs. Et c'est pourquoi les élections démocratiques sont aussi adaptées au peuple africain. Sauf les dirigeants africains. Les acteurs politiques africains utilisent ces élections pour en faire un autre usage. Et pour ne pas se conformer à celui qui a donné le pouvoir. Et c'est pourquoi en Afrique, on assiste malheureusement à l'assassinat des démocraties naissantes. Ce que nous déplorons, ce que nous voyons sous d'autres cieux. Vous l'avez vu au Cameroun, bientôt le président fait mandat, il veut maintenant amender la constitution. Vous l'avez vu chez Déby, au Tchad, il a amendé la constitution. Chez Omar Bongo, il a amendé la constitution. C'est ça l'Afrique, c'est ça dans l'Afrique.
Et au Kenya aujourd'hui, ça produit des morts.
Au Kenya aujourd'hui, ça produit des morts parce qu'on n'a pas respecté le principe démocratique. Parce que la démocratie, c'est l'exigence. Quand vous trichez avec la démocratie, vous n'irez pas loin. Vous serez rattrapé. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique a droit aux élections démocratiques au niveau des populaires, des peuples africains, mais les dirigeants qui confondent la démocratie et la démocratie, les élections et la tricherie.
Il s'appelle Jérôme Bonceau, il est président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT. Jérôme Bonceau, vous avez travaillé comme observateur international des élections dans plusieurs pays à travers le monde. Citons le Congo-Brazzaville, l'Angola, la Zambie, l'Afrique du Sud, la Fédération de Russie, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, le Zimbabwe et tant d'autres. Quel est le pays qui vous a marqué en matière électorale?
C'est l'Afrique du Sud. Le premier élection sud-africaine, c'était une école. Parce qu'au partant de ces élections, que la dignité s'est fait confirmer sur le terrain, en donnant une expérience électorale récente africaine. Parce que la victoire de la démocratie en Afrique du Sud, c'est une victoire et un honneur pour toute l'Afrique. Et c'est pourquoi, de toutes ces élections que j'ai sionnées, parce que vous m'avez parlé de Grande-Bretagne, des États-Unis, ça c'est le pays de la démocratie. Les machines sont en marche, les choses évoluent bien. Mais en tant qu'observateur, nous avons constaté que tous les observateurs en Afrique du Sud étaient unanimes. Nous étions plus de 20 000, nous étions unanimes. Quand le pouce était passé dans la transparence et le faire plein même des acteurs politiques. Nous avons vu des clercs venir faire une mise et une prise avec Mandela. Et ainsi de suite, c'est le cabinet de le président sortant sud-africain qui a préparé la cérémonie d'investiture du président Mandela. Or, dans d'autres pays africains, si on est perdant, on ne vient même pas, on ne sait même pas où on se cache et on se retire. Donc, les élections sud-africaines étaient une grande école, une grande expérience pour nous. Quand dans la Fédération de Russie à son temps, c'était de bonnes élections. La transparence y était parce que moi, quand je suis descendu, j'étais parmi ces 150 observateurs internationaux dans la Fédération de Russie, quand j'ai vu Gorbatchev, le père de la perestroïka, faire son meeting en public, cet homme-là qui a donné ce que nous puissions à ce moment-là porter des cravates, avec les fondements du mur de Berlin, avec le gouvernement du communisme. Et nous avons vu la population russe qui disait, en l'insultant, pourquoi tu nous fais partir d'un système où on donnait, on trouvait déjà tout déjà bien planifié par l'État et vous nous envoyez dans un système capitaliste, on doit chercher. Moi j'ai dit que j'ai le prophète chez lui. Si Gorbatchev venait chez nous en Afrique, on allait voter à 80%. Malheureusement, l'homme n'a pas eu autant de voix. C'est pour vous dire que j'apprécie même les intervenants. Mon ami Jean-Pierre Kimbouya de M. Ali Diabaté, que j'ai salué en passant, qui ont fait leurs interventions, ils ont fait aussi étonner des questions importantes. Vous avez vu le Kimbouya avec l'implication du monde syndical. Et c'est le monde syndical qui vit la démocratie. Parce que même quand nous étions dans la dictature, il y avait des élections syndicales qui étaient faisées. Et lui, avec le monde enseignant, croyait la démocratie, comment tu disais? Et quand M. Ali dit élection n'est pas démocratie, c'est vrai. La plupart des dirigeants utilisent les élections pour faire voir. Au chemin, il y a une élection. Vous voulez dire quoi? Quelle élection? Quel type d'élection? On utilise ça pour faire. Il y a des élections dans deux jours dans la Fédération de Russie. J'étais invité, je voulais y aller, mais je refusais. Mais là-bas, le gouvernement maintenant choisit les observateurs.
Et ça devient dangereux.
Très dangereux. Quand nous étions partis par la fois passée, on n'avait pas choisi. Maintenant, on doit choisir les observateurs. Tel observateur, on voit M. Alain, a des tendances à venir critiquer notre pouvoir, on ne vous accrédite pas. C'est ce que nous avons connu aussi chez Mugabe. En 2000, quand j'étais accrédité comme observateur.
Au Zimbabwe.
Zimbabwe. Mugabe nous a payé $100. américains pour avoir l'accréditation, tout en triant les observateurs qui voulaient qu'ils restent. Les autres allaient vous chasser le même jour. À l'aéroport, vous prenez l'avion, vous rentrez. Et surtout nos collègues britanniques, ils ont beaucoup souffert. Dieu merci pour nous les Congolais. Nous avons été bien embrassés par nos amis zimbabwéens. C'est parce qu'on échange quand même ensemble, on mange ensemble avec les matins qu'ils adorent aussi bien chez eux.
Dans l'actualité, Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, les élections législatives partielles à Défalier dans la province de l'Équateur se tiendront le 1er mai prochain. C'est la commission électorale indépendante qui l'a annoncé. Ce calendrier prévoit l'inscription des candidatures du 5 au 18 mars 2008 et la campagne électorale du 31 mars au 29 avril de la même année. Selon le porte-parole de la CEI, les préparatifs vont bon train. Dieudonné Mirimo a été joint au téléphone par Nazaire Koko.
Les préparatifs vont bon train. Nous avons déjà terminé l'ensemble des supports pour la sensibilisation et pour la formation. Une mission mixte, la CEI va se rendre à Défalé cette semaine pour aller recueillir tous les éléments nous permettant de pouvoir fixer et respecter le calendrier que nous venons de prendre.
Finalement, vous avez pu obtenir les moyens nécessaires pour l'organisation de cette élection.
Le gouvernement a pris l'engagement de mettre à notre disposition les moyens pour nous permettre d'organiser cette élection.
Et qu'en est-il des élections locales?
Les élections locales, le calendrier sera fixé plus tard parce que nous attendons les lois du Parlement ainsi que les budgets relatifs.
Où est-ce qu'on en est avec la loi sur la CENI?
Elle se trouve au Parlement pour examen.
Pour rappel, les premières élections législatives à Défalé avaient été annulées par la Cour suprême de justice le 9 novembre 2006. C'était suite au recours en annulation des résultats introduits par l'avocat du candidat député indépendant Roger Nkema. Et conformément à la loi électorale, la CEI était tenue d'organiser des nouvelles élections. Réaction Jérôme Bonceau, président de la LINELIT.
Nous saluons l'information que la CEI vient de donner et nous encourageons la CEI d'avoir pensé à pallier à ces déficits parce que vous savez, l'Assemblée nationale c'est une représentation de tous les coins du pays et les décisions qui sont prises au niveau national et que la population de Défalé ne s'y retrouvait pas parce qu'ils n'avaient pas de représentants et ce qui était là-bas c'était manque de moyens. Mais la CEI vient de donner une bonne nouvelle que nous encourageons à la CEI d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la date du 1er mai pour l'organisation des élections, avoir aussi un représentant de Défalé qui puisse faire entendre la voix de ces coins du pays au niveau de l'Assemblée nationale et c'est une bonne chose.
Dans le même chapitre, abordons la question des prochaines élections locales. Comment la LINELIT perçoit-elle cette étape électorale qui, vous le savez, va mobiliser plus de ressources que les présidentielles et les législatives de 2006?
Vous savez, les élections locales vont se dérouler dans un autre environnement. Les premières échéances électorales se sont déroulées dans un environnement où on avait autre province. Tandis que les élections locales vont se dérouler dans un environnement décentralisé, où il y aura autant beaucoup de bureaux de vote et beaucoup de circonscriptions électorales. Ça, c'est un. De deux, il faut avoir beaucoup plus de moyens que les précédentes échéances électorales. Et trois, il faut aussi mettre du paquet sur la sensibilisation, l'éducation civique de la population, afin que les uns et les autres, surtout les acteurs politiques, puissent maintenant intérioriser les éléments fondamentaux de la décentralisation territoriale. Parce que maintenant, il y aura la décentralisation territoriale. Si les uns et les autres ne saisissent pas les bien fondés de ces concepts de décentralisation, nous risquons de perdre le coach.
Oh, my God. nobody can stop the king. Nobody can stop the king. Oh, nobody can stop the king. Nobody can stop the king. Nobody can stop the king. Oh, nobody can stop the king. Nobody can stop the king.
En quelques secondes avant de mettre un terme à cette émission, Jérôme Bonceau, quelles sont les perspectives de la Linelite pour l'année 2008?
Oui, la Linelite a un plan triennal 2008-2010, qui est le plan triennal qui porte sur les axes, sur la consolidation de la paix et la consolidation du processus de démocratisation, et la fin aussi sur la vulgarisation des textes juridiques nationaux et internationaux, et aussi la Linelite va aussi s'impliquer dans la vulgarisation de l'acte d'engagement signé à Goma, comme il l'a fait avec le facteur de la sécurité, la stabilité et le développement du pays.
Jérôme Bonceau, merci d'être venu.
Merci à la Radio Capi, merci à Alain.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que nous recevions Jérôme Bonceau, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, une ONG de défense des droits de l'homme et de développement démocratique. Merci à Nadine Foula qui a réalisé cette émission et à Mimi Kindou qui était à la technique. Cette émission est disponible sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Bonne suite au programme sur Radio Capi.